France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui, on a les mains dans les oranges, cette saison. En confiture ou en liqueur, on va se régaler. Et on commence tout de suite avec vous, Bénédicte.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour. Vous nous parlez sucre et fruits. Ce sont les ingrédients de base pour la confiture, ça. Alors, direction la maison Perrotte, dans le sud du département.
Quand une commande de 300 kg d'oranges arrive...
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Quand une commande de 300 kg d'oranges arrive, il faut se remonter les manches et, muni d'un couteau, peler les fruits pendant des heures. Et c'est toute l'équipe de l'entreprise qui s'y met. Ils sont 10 salariés à s'activer à la tâche, mais c'est un travail laborieux. Ça se passe au Vaudelnais, dans le sud du département, entre Douai-la-Fontaine et Montreuil-Bellay, où la maison Perrotte s'est installée il y a 7 ans. La maison fabrique des confitures haut de gamme, dans la pure tradition artisanale. Son dirigeant, Stéphane Perrotte, est le seul à avoir le double titre de champion du monde de confiture et de meilleur confiturier de France. Il nous a ouvert les portes de son atelier, d'ailleurs ça va s'entendre. Retour sur son parcours.
C'est le parcours d'un jeune qui était pas très doué à l'école déjà, voilà, qui était plutôt un cancre et qui très rapidement est rentré dans les métiers de bouche. Donc moi à 14 ans, le samedi matin, je séchais l'école pour aller décharger les camions sur le marché à côté de chez moi. Donc à 15 ans, je suis rentré en apprentissage en charcuterie en tant que charcutier traiteur. Il y a eu après un parcours de chef de cuisine aussi en restauration. Après, j'ai fait un parcours commercial. Donc pour des producteurs de fruits, on est arrivé en 2007 en Anjou et on a démarré l'activité de confiture dans la cuisine de la maison parce que c'était le produit qui, en termes de normes sanitaires, permettait de le faire. Quelques mois après, il y a le chef Thibaut Ruggieri qui est arrivé à l'abbaye de Fontevraud. Il prenait le poste de chef de cuisine et vu qu'il y avait une partie hôtelière, je me suis dit je vais lui présenter mes produits. Donc les produits lui ont plu, j'ai écouté aussi ce qu'il disait par rapport aux choses qui allaient peut-être moins bien en termes de taux de sucre puisque... Clairement, quand j'ai démarré les confitures, on était comme les grands-mères, un kilo de fruits, un kilo de sucre. Il m'a amené une réflexion qui était plus intéressante. On a travaillé là-dessus et puis l'aventure a démarré voilà, avec ce premier chef. Ce qui est très marrant, c'est qu'en 2014, je remporte le titre de meilleur confiturier de France dans la cuisine. Je remporte les championnats du monde en 2015 dans la cuisine.
La confiture, tout le monde connaît. La recette est simple, deux ingrédients de base, des fruits, du sucre. Et puis il ne reste plus qu'à faire cuire. Mais évidemment, pour arriver au niveau de champion du monde, on imagine bien que rien n'est laissé au hasard. Le choix des fruits d'abord. Leur sélection est évidemment primordiale. Stéphane Perrotte choisit ses fruits à maturité et se déplace même chez les producteurs pour sélectionner des variétés particulières.
Là, par exemple, on a reçu des oranges Sanguine Meyer. C'est un croisement entre, qui viennent d'Anjou d'ailleurs, un croisement entre un citron Meyer et une orange Sanguine. Et on n'a reçu que 7 kilos de fruits. Donc avec 7 kilos de fruits, on va sortir à peine 50 pots.
Comment cuit-on une fraise pour garder les saveurs ?
Alors la fraise, faut pas la cuire de trop. La difficulté, c'est que souvent, les gens la cuisent de trop. Il faut savoir que la fraise, c'est un des fruits qui est le plus faible en pectine. La pectine, c'est le gélifiant naturel qui est compris dans tous les fruits. La difficulté aussi, c'est que plus on monte en maturité, donc plus on monte en charge en sucre au sein du fruit, moins il y a de richesse en pectine. Et après, nous, on est plutôt privilégiés sur des petites cuissons rapides, courtes. Voilà, pas plus de 20 minutes de cuisson, plutôt que, effectivement, comme on pouvait le voir dans le temps avec nos grands-mères, où ça cuisait pendant 2-3 heures la confiture.
Vous avez souvent des associations originales. Comment les trouvez-vous et pouvez-vous en donner ?
On va s'amuser, puisque pour moi, la confiture, c'est vraiment un mix entre la cuisine et la pâtisserie. Donc on peut s'amuser à être hyper créatif sur de la confiture. On n'est pas obligé de faire que de la fraise, ça on sait faire. Mais on peut s'amuser par exemple avec une fraise framboise, avec un peu de saumure champigny et puis du poivre de cassis à l'intérieur. Mais on est allé plus loin aussi. Par exemple, il y a quelques années, je m'étais amusé à faire une fraise fraises framboises, wasabi et infusion de verveine.
On a bien compris que c'était très important, la qualité des fruits, d'où viennent-ils ?
On travaille avec un groupement de producteurs qui est basé dans le nord de la France, sur une partie de nos fruits surgelés, qui sont sous une certification qui s'appelle Demain la Terre. C'est une certification éco-responsable. Nous, ici en Anjou, on a, ça s'appelle Agrumes de Méditerranée, qui est à Tiercé, qui nous fournit effectivement plein de petits agrumes, donc des petites pépites comme du limquat, comme de la kumquatine.
On entend par derrière le bruit des marmites, on est arrivé en fin de cuisson. Donc la confiture, on a dit que c'était du fruit et du sucre, quid du sucre ?
C'est très compliqué pour nous parce que moi j'ai fait le choix en 2015 de me passer de l'appellation confiture parce que c'est une appellation qui est obsolète en termes réglementaires. Pour le moment, c'est le lobbying industriel qui préfère garder des charges en sucre importantes parce que tout simplement le sucre ça coûte moins cher que le fruit.
Le problème aussi, disaient nos grands-mères, c'est la conservation.
On n'a plus ces problèmes de conservation parce que maintenant on a le système des capsules. Nos grands-mères, il n'y avait pas les capsules, c'était la paraffine ou le petit film en cellophane avec l'élastique de couleur. Donc il fallait des charges en sucre très importantes parce que oui, le sucre agissait comme un conservateur. Maintenant, nous, on travaille avec ce qu'on appelle des empotages et des capsulages à chaud. Donc il y a des autostérilisations qui se font et on peut conserver nos produits voilà, jusqu'à 36 mois sans aucun problème.
Mais ce n'est pas le tout de faire de la confiture ou de la préparation à base de fruits. Même quand c'est délicieux, il faut la vendre, il faut développer l'activité de l'entreprise. Stéphane Perrotte a plus d'un tour dans son sac.
On travaille pour un peu plus de 70 chefs étoilés, établissements de prestige. Et on est commercialisé dans à peu près 400 épiceries fines en France et une quinzaine de pays à travers le monde. Nous, notre concept est pas du tout industrialisable puisqu'on travaille tout dans des petites bassines en cuivre. On épluche aussi nos fruits. Le ratio, par exemple, sur des mandarines, on épluche 10 kilos de fruits, on a 1 kilo de pépins. Tout ça, c'est fait à la main. Le développement, il se fait gentiment et la croissance, elle est même limitée puisqu'on refuse, nous, des clients à partir du 1er juillet. On ne rentre plus de nouveaux clients au sein de l'entreprise. Et sur l'année, on doit être entre 350 et 400 000 pots à peu près. Alors les bassines en cuivre, on les quittera pas parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est en termes de qualité, c'est ce qui fait notre savoir-faire au niveau de la maîtrise de cuisson. Et puis après, il y a un affectif dessus parce que chez nous, les bassines en cuivre, elles ont tous un petit prénom. Donc on a la garde partagée avec ma chef et c'est ce qu'on aime dire. Et donc on a choisi les prénoms, donc elles ont toutes un petit prénom.
La chef de la maison Perrotte, justement, parlons-en. Christelle Mont est née au Vaudelnais. Elle est arrivée dans l'entreprise en 2017.
Je viens du Vaudelnais, donc je suis arrivée ici pour coller des étiquettes au départ. Et il y a eu un accroissement de travail, donc je faisais des allers-retours, je les aidais en cuisine. Et là, il m'a dit, voilà, on va faire venir quelqu'un, est-ce que tu veux que je t'apprenne le métier, est-ce que je vois que tu es intéressée, ou tu préfères rester à coller des étiquettes. Donc je suis restée en cuisine.
Et donc Stéphane Perrotte l'a initié au secret du métier et il lui a si bien transmis sa passion que Christelle décroche à son tour, en 2022, le titre de championne du monde de confiture. Et donc la maison Perrotte est le seul fabricant de confiture sur la planète à détenir deux champions du monde en son sein. Et c'est en Anjou que ça se passe, s'il vous plaît. Christelle Mont est une passionnée. On l'écoute nous parler de son concours.
Alors nous avons des fruits imposés, une liste de fruits. Cette année c'était sur les fruits jaunes. Il fallait réaliser deux confitures, une traditionnelle et une insolite. La somme des deux faisait que vous étiez championne ou champion du monde. Donc moi j'ai présenté en traditionnel ananas goyave et la deuxième j'avais fait une insolite. C'est-à-dire j'ai fait mangue passion poivre de Timut et la somme des deux a fait un deuxième prix dont championne du monde.
Alors que d'habitude vous travaillez avec un taux de sucre inférieur, c'est difficile de travailler avec un taux de sucre pour que ce soit de la confiture.
On a ce qu'on appelle un appareil qui s'appelle un réfractomètre qui contrôle le sucre. Donc si on n'a pas assez, on en rajoute un petit peu parce qu'il faut savoir que si vous n'avez pas entre 55 et 56, c'est éliminatoire.
Eh bien bravo Christelle. Le monde de la confiture est un univers très concurrentiel. Remporter des prix, c'est bon pour l'ego, évidemment. Mais pas seulement. Qu'en dit Stéphane Perrotte ?
L'idée des concours, c'est plus de savoir comment, au fur et à mesure, on se situait en termes de qualité par rapport à nos confrères. Et je crois qu'en fin d'année dernière, on était à plus de 40 prix remportés en moins de 10 ans dans divers concours. Donc, je suis le seul à être effectivement en France meilleur confiturier de France et champion du monde. On a plus de 13 médailles en concours général agricole. En 2018, on a présenté 6 produits, on a fait 5 médailles. L'année dernière, on a présenté au Good Test, en Angleterre, qui est un peu le concours général agricole anglais, 6 produits, on a fait 6 médailles. Et puis ma chef, l'année dernière, qui remporte aussi le titre de championne du monde. Voilà, donc on a certainement un savoir-faire. Et ce qui est surtout important, c'est qu'on a aussi un savoir-transmettre.
Effectivement, les termes transmettre, collaborer, partager font vraiment partie du vocabulaire de la Maison Perrotte. Et de quoi de mieux pour commencer la journée qu'une tartine de bonne confiture ?
Oui, mais surtout avec du beurre salé. Alors tout de suite, on écoute la Compagnie Créole avec la gourmandise.
La gourmandise est mon péché mignon. Oh, oh, oh. La gourmandise est mon péché mignon. Oh, oh, oh. Mon péché mignon. J'aime la glace.
La curiosité sous toutes ses coutures. C'est vers une autre maison d'Anjou que nous nous tournons maintenant. Minouche, c'est l'entreprise Cointreau qui a retenu votre attention.
Oui, Bénédicte, c'est une belle histoire familiale que celle de l'entreprise Cointreau et une saga digne de bien des romans. Mais c'est aussi un exemple de modernité et d'adaptabilité. Pour découvrir cette belle fabrique, j'accueille Alfred Cointreau, ambassadeur de la marque et natif de la sixième génération. Alfred Cointreau, bonjour.
Bonjour à tous.
Sixième génération, c'est beaucoup, hein.
Sixième génération, c'est une belle continuité, on va dire.
Elle commence quand, cette épopée Cointreau ?
Alors, l'épopée Cointreau, elle commence d'abord au XVIe siècle, quand on était boulanger. On a créé une autre spécialité de la France. On a créé la baguette. Non, je rigole, on n'a pas créé la baguette. Mais on était boulanger à Baugé en Anjou, exactement. Ensuite, on est devenu confiseur et vraiment l'épopée Cointreau commence en 1849 avec le rêve de deux frères, Édouard, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, et son frère.
Et alors, racontez-nous brièvement, qui est-ce qui a inventé cette recette ?
Qui a inventé cette recette? Alors, c'est la seconde génération qui avait plus la fibre créative, on va dire, un autre Édouard, le fils d'Édouard. Donc, mon arrière-arrière-grand-père, seconde génération, qui, lui, voulait créer la spécialité de la maison pour faire la différence avec les autres distillateurs licorices qui existaient dans le Maine-et-Loire, mais aussi en France. Donc, il a l'idée de faire un petit voyage autour du monde. Donc, fin du 19e siècle, c'était un petit peu l'aventure. Il revient un an après, en 1875, à la distillerie à Angers, avec dans ses soutes, dans ses cales de bateau, des écorces d'orange, donc un fruit rare, exotique, assez peu connu en Europe, et du coup il décide d'un petit peu le populariser, on va dire, à travers un procédé de distillation qui est toujours le même aujourd'hui, et on a toujours ces mêmes alambics créés par Édouard dans nos murs à la distillerie à côté d'Angers.
Oui, d'ailleurs, tiens, on va parler de ça tout de suite. Il y a un endroit où on peut voir ces alambics?
Alors, il y a un seul endroit au monde, et ça, on est assez fiers de ça, parce qu'avec Cointreau, on n'a pas d'appellation. Ce n'est pas comme le champagne ou comme le cognac que tous les Français connaissent bien. Avec Cointreau, on peut distiller, je ne sais pas moi, aux US, en Asie, là où la main-d'œuvre est moins chère, là où l'énergie est moins chère aussi. Non, c'est vraiment un choix familial d'être toujours distillé, élaboré dans le berceau familial à Angers.
À Angers. Et je crois qu'on peut visiter un endroit qui s'appelle le Carré Cointreau.
Alors, le Carré Cointreau, c'est un petit peu la porte d'entrée pour les visiteurs. Ça, c'est toujours la première génération qui a voulu garder les portes de la distillerie ouverte. Ils partaient du principe, les deux frères en 1849 partaient du principe que la distillerie était un peu le premier média, le premier outil de communication. Et ils voulaient être complètement transparents et montrer à tous les visiteurs qu'ils souhaitaient leur procédé de fabrication.
Vous avez toujours été pointu en com, hein, chez Cointreau.
Pointu en com, pionnier. Ça, c'est vraiment quelque chose toujours initié par Édouard, la seconde génération, qui était vraiment créatif, pionnier. Par exemple, au début du cinéma, en 1895, chose que vous saviez, initié par les frères Lumière. Il a l'idée de travailler avec les frères Lumière pour créer un des premiers films publicitaires. Donc aussi, quelques années après, il crée les principes, le principe du teasing, donc communiquer en différentes étapes. Et puis après, il y a aussi la bouteille en tant que telle, qui est plus qu'une bouteille, qui est même un flacon, qui lui est aussi un vecteur de messages et qui raconte beaucoup de choses.
Je vais vous interroger sur le développement de Cointreau. Donc on crée la recette et le développement national, par exemple, c'est quand?
Alors, c'est dès les débuts, c'est vraiment dans le brief, comme on dirait aujourd'hui. C'est vraiment une volonté initiale. C'est pour ça que, notamment, la bouteille est carrée. Parce que quand la bouteille est carrée, on optimise l'espace dans une caisse. Et aussi, les bouteilles s'auto-supportent. On n'a pas besoin de mettre des protections, des choses comme ça entre les bouteilles. Donc, c'est vraiment une volonté de, dès la création, s'émanciper à l'international.
Et alors voilà, l'international, ça arrive quand?
Oh, ça arrive très vite. Alors, Édouard Cointreau, la distillerie créée en 1849. Édouard Cointreau, la seconde génération, rejoint la maison en 1875 et il finalise sa recette après 10 années de recherche en 1885. Donc on va dire en 1886, le quota international est lancé. Et il commence par le nord de l'Europe, ce qui est le plus facile, ce qui est le plus atteignable par rapport à Angers.
Et donc, on trouve du Cointreau où actuellement?
Pratiquement partout, je ne vais pas vous dire dans 100% des pays, parce que je n'ai pas été vérifié personnellement et on ne peut pas dire 100%, mais dans 98,5% on va dire. C'est aussi le petit jeu de mots, Cointreau aux quatre coins du monde. On retourne sur la bouteille carrée emblématique et on en trouve pratiquement partout aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que vous êtes toujours un produit angevin, avec une identité angevine, ou vous l'avez perdu?
Non, on est toujours un produit angevin, fier de l'être. Quand une de mes casquettes, c'est promouvoir la marque à l'international. Et avant d'être ambassadeur de Cointreau, je suis avant tout ambassadeur d'Angers. Et ça, on est vraiment fier de nos racines, très fier de nos racines même.
Vous êtes fier de vos racines. Vous portez haut les couleurs d'Angers avec Cointreau.
On porte haut les couleurs d'Angers. On a quatre ingrédients dans notre recette, notamment l'eau. L'eau, c'est celle d'Angers. Donc oui, on a vraiment cette ADN angevine.
Est-ce que, entre le Cointreau de votre arrière-arrière-grand-père et celui qu'on boit actuellement, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous avez modifié la recette?
Alors, il y a forcément eu des évolutions parce que les matières premières ont forcément évolué, que ce soit l'eau, l'alcool, le sucre ou même les essences d'orange. qui proviennent des écorces, mais l'objectif, et c'était aussi la volonté de la création à la base, c'était d'avoir toujours le même Cointreau. Donc, et ça allait un petit peu à contre-pied de ce qui se faisait à l'époque. Je reviens sur nos champagnes, nos cognacs, même nos vins. Tous les ans, il y a des différents millésimes, des différents goûts, parce que pour les suivant les aléas climatiques, etc. Avec Cointreau, ce qu'on voulait, c'est avoir quelque chose qui, sorti des alambics, tous les jours, ait vraiment le même goût. Donc c'était complètement novateur. Donc notre objectif, encore aujourd'hui, 2 siècles après la création, ouais, c'est de répliquer exactement le même Cointreau. Donc on a toujours un talon, ce qu'on appelle un talon, donc qui est un peu le Cointreau originel. Et on le compare toujours aux distillations, à chaque distillation, pour être sûr qu'il n'y a pas de différence. Et ça, c'est le boulot de notre maître distillatrice, qui est un petit peu le nez de Cointreau, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de synergie avec la parfumerie. Et donc, c'est son travail de faire en sorte que la recette ne bouge pas et soit toujours la même depuis 1885.
C'est une femme alors, maître distillatrice ?
C'est une femme, c'est la seconde femme à occuper ce rôle. Et puis, la gente féminine a toujours occupé une place très importante plus largement dans la société. Et ça, donc, ça vient avec le côté social dans son ensemble, on va dire, et qui a été initié par mon arrière-arrière-grand-mère, Louisa, pour qui c'était vraiment important. On se remet dans le contexte de l'époque rapidement. Fin du 19e, les femmes, elles n'ont pas le droit de vote. Elles n'ont pas de boulot, elles restent gentiment à la maison pour prendre soin du foyer familial et des enfants. Mais Louisa, elle, est très impliquée à la distillerie. Elle est un petit peu le bras droit d'Edouard, qui est le patron officiel de l'époque. Et elle va vraiment l'inspirer, l'aider à pas mal de choses, notamment sur la partie de sa recette. Je vous ai parlé de parfumerie tout à l'heure, de parfum avec le flacon. Donc Louisa l'a beaucoup inspirée là-dessus. Mais aussi le côté social, à cette époque, il y a certains employés qui n'ont pas d'eau courante à la maison. Et elle les autorise 2 fois par semaine à venir à la distillerie avec leur famille pour nettoyer leurs affaires ou prendre une douche. Donc des petites choses toutes bêtes comme ça, mais aujourd'hui, le côté social initié par la gente féminine est toujours très important pour nous.
Alors, petite question piège, même bouteille, même alcool?
Tout à fait.
Comment on reste moderne?
Comment on reste moderne? Alors ça, on change pas l'offre. C'est on s'adapte aux cultures. Alors vous avez peut-être vu, soit dans les bars, soit dans les rayons, cette année on a changé la bouteille. Alors c'est jamais une révolution, c'est une évolution. Bah oui, je vous vois toutes les deux avec
Mais
des grands yeux
ébahis.
Quelle horreur ! Alors, non, parce que c'est des changements assez subtils. On garde les codes qui sont vraiment l'ADN et qui font la force de Cointreau.
Oui, parce que le flacon, il est vraiment emblématique.
Iconique, ouais. Donc, on garde toujours le flacon ambré, carré. Et là, vous verrez, c'est plus au niveau de l'étiquette, un petit peu au niveau du bouchon. Il y a eu quelques évolutions. Donc, vous pourrez trouver les différences avec les générations précédentes. Mais ce qui fait la différence, c'est en fait comment les cultures s'approprient ce Cointreau. Donc, alors en France, on est très traditionnel, digestif ou dans la gastronomie. Aux États-Unis, on va plus être dans les cocktails, et dans d'autres cultures, on va varier les recettes dans lesquelles on utilise notre Cointreau. Et après, il y a d'autres problématiques qui sont plus sociétales, plus de l'ordre RSE qui s'imposent à nous, on va dire.
Mais quels sont les défis que l'entreprise va avoir à relever?
Aujourd'hui, un des gros défis, c'est RSE. Donc c'est tout ce qui est, j'ai abordé un petit peu le côté social, et on va avoir tout le côté environnemental. Auparavant, pour produire une bouteille de Cointreau, il fallait 1,8 litre d'eau. Aujourd'hui, il ne faut plus que 1 litre. Cette nouvelle bouteille, elle a permis de réduire de quelques grammes le poids du verre, qui est très important. On utilise aussi 2/3 de verre recyclé. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on arrive à répondre à des problématiques de notre ère, de notre temps, du 21e siècle, et d'être toujours à la pointe, j'ai envie de dire, bien qu'on utilise une recette ancestrale.
Bon, alors écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais vous nous avez parlé cocktails, et sur Radio Campus, on aime bien les cocktails. Alors, une petite recette cool pour la fin?
Alors, ma recette préférée que ma grand-mère m'a appris, et je l'ai tatouée sur l'avant-bras droit, c'est la margarita créant 1948 à Acapulco, 3 centilitres de Cointreau, 5 centilitres de tequila blanche avec un demi-citron vert fraîchement pressé.
Et chers auditeurs, je peux vous assurer qu'il a bien la recette tatouée sur le bras. Merci Alfred Cointreau.
Bonne journée.
Merci.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.